les mardis 13h, vous écoutez CFM Radio et ses ondes positives qui commencent. Des ondes positives, des vibrations inspirantes, une fréquence sereine, apaisante. C'est tout ce que je vous propose pendant les 50 minutes qui suivent. Alors, profitez-en. Cette semaine, je suis en compagnie de mon invité, Emmanuel Tandonnet. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Dorothée.
Emmanuel, tu es une jeune femme de 36 ans, chef d'entreprise depuis 12 ans. Depuis l'âge de 24 ans, donc, tu œuvres dans le domaine de la communication d'entreprise, développant ta propre société. On peut dire que tu es une businesswoman hyper dynamique, hyper créative, ambitieuse, péchue. Mais bien sûr, tu n'es pas que cette femme-là, car la vie te propose d'autres voies. Aujourd'hui, tu viens nous donner un singulier message positif qu'on pourrait de prime abord penser en décalage avec la présentation que je viens de faire de toi. Ton message, le voici. Dans le silence et la solitude, on n'entend plus que l'essentiel. Alors Emmanuel, la femme communicante que tu es a donc eu besoin de silence et de solitude ?
Eh oui, la vie m'a proposé en fait une succession d'événements, un certain nombre d'aventures et de périples qui m'ont invité à m'interroger sur le rythme que j'avais, sur le mode de vie que j'avais et m'ont invité à faire de nouvelles expériences.
Alors tu vas bien sûr nous raconter tout ça. Est-ce que je t'ai bien décrite dans mon introduction ?
Oui, en tout cas, c'est comme ça qu'on peut me voir.
Avant 2015, tu étais cette femme branchée sur 100 000 volts, peu à la maison.
Oui, et malheureusement, je le suis encore un peu.
Qu'est-ce qui te poussait à tout donner pour ton travail ? C'était quoi tes moteurs ?
Je pense qu'à la base, c'est un très fort besoin de reconnaissance qui vient d'une faille personnelle et d'un besoin d'être aimée et d'être reconnue pour ma propre valeur. Mmh. Et ensuite, c'est... un sens tout particulier que je mets dans mon travail, qui est d'aider des entreprises à se développer, à créer de l'emploi et à permettre à des hommes et à des femmes d'être heureux dans leur travail au quotidien.
Mmh. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un peu de conditionnement, ça veut dire que faut se sentir reconnue en tant que femme réussissant dans sa vie professionnelle, faut montrer qu'on y arrive.
Je pense qu'on cherche tous la reconnaissance, on vit dans un monde social, chercher la reconnaissance pour soi et juste avec soi c'est une quête mais peu y arrive. Mmh. Et oui, je pense que c'est ça.
La reconnaissance de la société sur son propre parcours.
Tout à fait.
Et puis, fin 2014, début 2015, arrivent trois déclics qui vont te remettre en question, qui vont remettre ta vie en question. Alors, explique-nous comment ça a commencé, quel a été le premier déclic pour toi ?
Alors, en fait, comme je disais tout à l'heure, il y a eu une succession d'événements, une concaténation de signes que j'ai pas forcément écoutés au moment où ils se sont présentés. Mais maintenant, avec un petit peu de recul, j'arrive à les aligner et à comprendre qu'il y a eu un sens logique dans tout ça.
Ouais.
Le premier événement, ça a été le fait que j'ai été observatrice et impliquée dans une affaire de maltraitance animale qui m'a particulièrement bouleversée et qui m'a permis de m'interroger sur la place de l'animal, sur la façon dont on le considère.
Oui.
Et j'ai du coup ressenti un besoin extrêmement fort d'être beaucoup plus proche de la nature, de comprendre en fait que l'être humain n'est finalement qu'un animal, alors certes un petit peu plus évolué parce qu'on a un mental qui s'est énormément façonné, mais j'ai ressenti vraiment le besoin d'être dans la nature et j'ai expliqué lorsque j'étais assise dans un champ à ne rien faire, eh bien j'étais juste particulièrement bien.
Ce qui n'était pas forcément le cas dans ta vie au quotidien.
Pas du tout, je passais ma vie derrière des ordinateurs, dans ma bagnole, à courir de comité de direction en réunion, donc j'étais absolument pas dans la nature.
D'accord.
Donc je me suis intéressée à la façon dont on élève, dont on abat, dont on mange ce qu'on appelle de la viande, mais en fait ce n'est que de l'animal, et je suis devenue végétarienne. Et donc ça a été une première façon pour moi d'avoir une sorte d'hygiène de vie, d'hygiène corporelle et de respect.
Et une première prise de conscience en tout cas de ce qu'est un être humain.
Exactement, exactement. Le deuxième événement, ça a été ma séparation, donc ça arrive à plein de gens bien de voir son couple voler en éclats et surtout la prise de conscience que les années passent et que on fait des compromis et qu'on est absolument co-responsable de ce qui se passe dans une relation de couple. Et je me suis du coup interrogée sur la façon dont je pouvais être heureuse dans ma vie sans que mon bonheur finalement tienne à l'autre, oui. à la présence de l'autre.
Le sens du couple.
Oui, le mm-hmm. sens du couple et finalement qu'est-ce qu'on attend de l'autre et qui on est dans la relation de couple. Et donc ouais. ça m'a interrogée sur ma propre identité et sur ma propre voie de bonheur.
Mm-hmm, parce qu'on se construit souvent une identité en fonction de la personne avec qui on vit.
Non, tout à fait. Non mm-hmm. seulement ça, mais en plus, on va chercher dans l'autre une compensation de nos propres failles.
Ouais.
Et souvent un miroir de ce dont on a besoin. Et mm-hmm. je pense que c'est au final relativement malsain. Mm-hmm. On a vraiment l'obligation tous de se purifier, d'apprendre à se connaître pour que l'autre soit une complémentarité, mais positive, constructive, mm-hmm. bienveillante.
Mm-hmm. Donc là, c'est quelques mois après le premier déclic sur la violence animale. Tout arrive au même moment.
C'est ça, ça s'enchaîne. Et puis arrive début 2015, mm-hmm. où clairement je suis en épuisement professionnel et personnel, je pense aussi.
Oui.
Donc un état de fatigue extrêmement avancé dont je prends pas conscience parce que je suis très dynamique, toujours optimiste et très positive.
Mm-hmm.
Mais il se passe un accident. Mmh. Un accident tout bête. J'essaie de monter sur mon cheval, qui est à peu près la seule chose qui me donne une bouffée d'air pure dans ma vie. Et au moment où j'essaie de me mettre sur mon cheval, je tombe. Je fais vraiment une chute toute conne.
Mmh.
J'aurais adoré être au grand galop, dans un champ de blé, les cheveux au vent. Et... Non, non, pas du tout. À l'arrêt. Je tombe à l'arrêt. Donc voilà. Paye ta symbolique, comme je dis. Et cette chute de cheval, en fait, elle m'oblige à m'arrêter, puisque du coup... Je me casse le ligament croisé du genou gauche et je deviens invalide.
Oui.
Et je passe 6 semaines à réapprendre à marcher. Donc je passe d'une vie où je cours partout, où je conduis vite, où j'aide tout le monde tout le temps, à être assise sur une chaise sans pouvoir bouger.
Mm-hmm. Et donc, dépendante des autres.
Et totalement dépendante des autres. Donc un réseau extraordinaire se met en place autour de moi. Je prends conscience qu'on peut avoir envie de m'aider. Que ça peut être aussi gratifiant, en fait, d'aider l'autre.
Mm-hmm.
Et donc, je commence à changer de regard sur moi. Et cette pause me permet de comprendre que bah, dans ma vie, je crois me nourrir et je crois grandir. Et oui, c'est le cas, mais je m'auto-aliène aussi.
D'accord. Tu prends conscience d'une auto-aliénation.
D'une auto-aliénation.
Qu'est-ce que tu entends par ce mot auto-aliénation? C'est fort.
C'est qu'en fait, je pense que... C'est comme si, pour arriver à être bien, je m'étais entourée d'un certain nombre de croyances et d'obligations
mm-hmm.
pour rentrer dans un certain moule, pour envoyer une certaine image de moi à moi et mm-hmm. puis de moi autour de moi. Et en fait, c'est une fuite permanente en avant, c'est une course perpétuelle
mm-hmm.
et dans laquelle, en plus, le comble, c'est qu'on prend pas le temps de s'arrêter, de se retourner.
Et de savourer ce qu'on a
eu. Et de savourer, et de se féliciter.
Mm-hmm.
Et même les compliments de l'entourage, en fait, ils ont pas de valeur.
Donc toujours plus de clients, toujours plus de chiffres d'affaires, toujours plus de rendez-vous, c'est ça?
Toujours plus de tout, des implications dans des syndicats, des associations, du bénévolat dans tous les sens et...
Mm-hmm.
Le sens du service exacerbé pour avoir le sentiment d'être utile.
D'accord.
Voilà.
Et tu prends conscience lors de cette invalidité aussi que tu as des jambes. Ce dont on n'a pas forcément conscience de façon naturelle.
C'est ça. Et en fait, c'est pas au moment où je suis invalide que je prends conscience que j'ai des jambes.
Mm-hmm.
C'est un petit peu plus tard, quand je me suis retrouvée sur le chemin de Compostelle quelques semaines plus tard.
D'accord.
Où un jour, je m'interroge sur la raison pour laquelle je marche.
Alors, on fait une petite pause. Tu vas nous expliquer évidemment ce que tu vas trouver sur le chemin de Compostelle. Mais avant ça, on écoute la première musique avec laquelle tu es venue. C'est Hit the Jackpot, Random Soul.
Stuff that comes out of Detroit. That's really great.
Oh, girl.
Jackpot Random Soul, c'est une proposition musicale d'Emmanuel Tandonnet, mon invité cette semaine dans Ondes Positives. Alors Emmanuel, qu'est-ce qu'elle évoque cette musique pour toi?
C'est un morceau que je trouve très, très happy, qui donne le sourire, qui donne envie de bouger, de gigoter, et qui est composé de plein de sonorités différentes. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'effervescence et beaucoup de... d'ondes positives.
D'accord. Et puis c'est une musique que tu as écoutée l'année dernière.
Oui. Mm-hmm. C'est une musique qui a bercé mes soirées au moment où j'ai décidé de partir en pèlerinage sur Saint-Jacques-de-Compostelle.
Oui. Alors qu'est-ce qui se passe? On s'en est arrêté aux trois déclics, plein de prises de conscience sur ton mode de vie, sur la personne que tu es, sur les choix que tu as fait les années précédentes, qui ne te correspondent pas forcément, en 2015 en tout cas, avec la femme que tu es devenue. Et tu décides de partir marcher. Alors, d'où vient cette idée?
En fait, je décide tout simplement de prendre soin de moi et de m'accorder du temps, de partir à la découverte de moi pour savoir ce qui est constitutif de mon bonheur, qui je suis, quelle est ma mission sur cette terre, comprendre ce que je dois faire en fait de ma petite existence corporelle ici et maintenant dans cette société.
Donc faire une parenthèse en fait dans ton quotidien, t'isoler.
Exactement, une parenthèse que je dis une parenthèse à la découverte de soi. Et je suis en développement personnel depuis toujours en fait. À partir du moment où j'ai créé mon entreprise, j'avais conscience que ma boîte était, enfin que j'étais le principal moteur de ma boîte, mais que j'en étais aussi le principal frein et que mes croyances et mes compétences allaient intimement impacter la façon dont mon entreprise allait se développer. Et donc j'ai fait plein de stages, j'ai appris plein de choses. Sur le développement personnel et sur la connaissance de soi. Mais là, j'avais envie d'accélérer et j'avais envie de m'accorder un vrai temps de quête spirituelle.
Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle tu choisis de partir sur le chemin de Saint-Jacques?
Alors, le chemin de Saint-Jacques, en fait, c'est un chemin hautement énergétique, puisque des millions de personnes sont passées là, qui a une histoire très très forte. Alors, religieuse en l'occurrence, mais c'est pas ce qui m'importe. C'est un chemin sur lequel les énergies sont vraiment puissantes et très présentes. Et donc, je décide de l'emprunter parce qu'on m'en avait parlé à de nombreuses reprises, mais aussi parce que je fais la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Thomas, qui lui est pèlerin depuis 6 ans, qui vit sur le chemin de Compostelle. Et lorsque je le rencontre, j'écoute avec énormément de curiosité et d'intérêt son mode de vie, qui est dans le détachement total, qui est dans le moment présent. C'est quelqu'un qui, quand il se réveille le matin, il est juste heureux d'être vivant. Et cette simplicité, cette sobriété heureuse, comme dit Pierre Rabhi, j'en suis totalement admirative parce que c'est complètement à l'opposé de moi ce que je vis.
Ça te donne envie de tenter l'aventure.
Exactement. Et donc, je modélise sa façon de vivre. Je m'en inspire. Il m'aide à surpasser mes peurs. Et il me donne envie de partir sur ce chemin, mais de partir seule.
Oui.
Alors que dans ma vie, je suis tout le temps et en permanence entourée. Et j'arrive à me dire que finalement, pour grandir, j'ai pas forcément besoin d'un formateur, d'un coach, d'un psy. Que j'ai toutes les ressources en moi.
Oui.
Et que en me coupant du monde, finalement, en étant seule avec mon sac à dos en train de marcher, eh ben, je vais pouvoir me couper de cette frénésie du monde et je vais pouvoir justement me retrouver moi, en fait.
Et éclairer les ressources que tu as à l'intérieur et que tu vois pas forcément.
Exactement. Prendre le temps.
Donc, à l'été 2015, tu fais ton premier pèlerinage, seul, comme tu viens de nous l'expliquer, pendant un mois, sans aucune expérience de la randonnée et avec un genou convalescent.
Tout à fait.
C'est quand même aussi le besoin de te mettre en danger, non?
Je dirais plutôt que c'est l'envie de me dépasser.
Ouais.
D'oser, de croire que c'est possible de partir sans expérience de la randonnée, donc sans maîtrise de mon corps, avec un genou gauche vacillant, mais donc du coup ça m'oblige à prendre soin de moi, mm-hmm. ce que je ne sais pas faire dans la vie de tous les jours. Mm-hmm. J'ai un sac à dos qui fait 16 kilos parce que je veux me mettre en totale autonomie. Mon principe, c'était de bivouaquer, donc de ne pas aller dormir dans des auberges ou dans des gîtes, oui. puisque nécessairement dans ces endroits il y avait du monde et moi je voulais être seule. Donc j'apprends à abandonner le confort d'un lit et d'une douche et d'y préférer un matelas gonflable et me laver à des robinets dans des centres villages ou me baigner dans une rivière le long de laquelle je peux marcher. Mm-hmm. Je décide aussi de randonner sur un chemin balisé malgré tout, donc qui est relativement sécurisant. Mais j'ai un sens de l'orientation qui est digne de celui d'une huître. Mm-hmm. Et je me perds régulièrement, et en fait j'adore me perdre parce que ça interroge sur la raison pour laquelle on reste pas toujours dans les sentiers qui sont balisés.
Alors c'est tu choisis quand même une première expérience à la dure, hein, si je peux dire. C'est ta façon à toi de te détacher du confort, du matériel, comme tu nous le dis. Alors apprendre le détachement, c'est pour connaître l'essentiel.
Oui, c'est exactement ça. C'est quand vous êtes pèlerin sur le chemin de Compostelle et que vous êtes habillé en tenue de rando, vous ressemblez à rien. Mm-hmm. Quand ça fait 3 jours que vous n'êtes pas lavé les cheveux, forcément, vous avez un look qui est un peu moins corporate, mm-hmm. Avec votre gros sac à dos.
On est loin de la businesswoman en talons, oui, c'est sûr. Hein.
On est très loin et du coup, la personne que vous rencontrez, elle s'appelle Emmanuelle Tandonnet, mais personne ne le sait. Elle est chef d'entreprise, mais personne ne le sait. Et en fait, c'est juste un être vivant qui est tout rouge, en âge, avec un sourire incroyable et avec juste une énergie folle, un plaisir incroyable d'être dans la liberté et d'être dans le plaisir simple de l'instant.
D'accord, donc on va parler de tout ce que tu vas apprendre sur le chemin, mais tu nous parles de ton entreprise. Pour ton entreprise, justement, un mois d'absence pendant l'été, c'est pas grave ?
Non, c'est pas grave à partir du moment où ça s'organise, où on communique en interne sur le fait qu'on a ce projet, où on se structure et mm-hmm. on fait en sorte de ne pas être indispensable pendant un mois.
D'accord. Donc c'est possible. C'est un message que l'on peut donner aux chefs d'entreprise.
C'est possible et je me l'étais jamais accordé. Et oui, c'est possible.
Alors pendant ce mois d'août 2015, la chef d'entreprise devient pèlerine. Alors qu'est-ce que pour toi être un pèlerin, et surtout qu'est-ce que pèleriner ?
Pèleriner, c'est avant tout marcher. Marcher, ça veut dire mettre un pied devant l'autre et expérimenter cet acte répétitif qui est d'arpenter un chemin, un sentier, une côte, une descente. Et cet acte répétitif, en fait, il invite très rapidement au tourisme intérieur. Mmh. C'est-à-dire qu'on est à la fois bercé par une nature et une générosité environnante qui est extrêmement ressourçante, mais on a en même temps, par cet acte physique, contraint de venir plonger à l'intérieur de soi et de venir s'interroger sur un certain nombre de choses. Mm-hmm. Et puis marcher, ça veut dire aussi ressentir de la douleur, oui. les ampoules, mm-hmm. on n'y réchappe pas, les hanches, les épaules qui souffrent, et c'est affronter cette douleur. Aussi, et se dire que cette douleur physique, finalement, c'est qu'un signal qui est envoyé à son cerveau. Ce n'est qu'un signal, et que le signal à tout moment on peut le couper et se concentrer sur bien autre chose.
D'accord. Donc pèleriner, c'est forcément, il y a forcément de la souffrance, se détacher de sa propre souffrance.
On part pour en chier.
Ah ouais.
On part tous pour en chier. Mmh. Mais on part pour en sachant très bien que c'est justement en affrontant toutes ces difficultés qu'on va en ressortir grandi. Mmh.
C'est comme dans la vie, en fait, c'est un super symbole de la vie. On sort grandi de ce qui a été compliqué parce qu'on a gravi la montagne.
Oui, mais il y a une chance particulière qu'il y a dans le pèlerinage, c'est qu'on est dans la nature. Mmh. Et que ce qui nous environne, c'est pas le stress des voitures, des campagnes publicitaires et du monde du business. C'est une générosité, une abondance extraordinaire de forêts qui vous envoie plein d'amour si vous prenez le temps de l'écouter. Mmh. C'est la capacité à faire un finalement avec toute cette nature et de se sentir entre ciel et terre et être vraiment centré sur le moment présent. Mmh. Et entre l'énergie qu'il y a par les hommes qui sont passés là plus la nature. Finalement, l'effort et les difficultés peuvent être Ouais, c'est presque des blagues, en fait.
Donc, les ressources du pèlerin, à t'entendre, je comprends qu'elles sont intérieures, certes. On a des ressources intérieures sur lesquelles on peut compter. Elles sont aussi extérieures dans l'environnement. La ressource de la nature qui est là pour donner un nouveau souffle et une nouvelle énergie. Et puis aussi la ressource de ceux qui sont passés avant et qui ont laissé quelque chose.
C'est ça.
Une vibration.
Il y a un troisième élément, ce sont les hommes et les femmes qui sont sur ce chemin. Donc, ceux qui pèlerinent comme toi. Moi, j'ai pris la décision de remonter le chemin de Compostelle à l'envers. Mmh. Ceux qui le font en général, c'est ceux qui rentrent chez eux. Moi, j'ai décidé de le faire pour un certain nombre de bonnes raisons, mais surtout pour n'avoir qu'à croiser des gens et ne pas marcher avec des gens. Mmh. Et donc, chaque rencontre avec un pèlerin qui, lui, descend le chemin pendant que toi, tu le remontes, chaque rencontre, elle est porteuse de sens. C'est-à-dire qu'au départ, il y a les premières questions banales. Tu viens de quelle étape? T'as marché combien de kilomètres? Tu vas jusqu'où? Bon. Et en fait, très rapidement, on en arrive aux vraies questions. C'est qu'est-ce que tu fais sur ce chemin? Quelle a été ta plus belle prise de conscience dans les quelques jours qui viennent de s'écouler? Quelle est ta quête?
C'est rigolo de voir que d'abord, on parle de performance et qu'ensuite, on arrive à l'essentiel. Hein.
C'est exactement ça. Et puis, il y a aussi l'une des choses qui est assez extraordinaire, c'est les riverains, en fait, du chemin de Compostelle qui viennent vous parler. Et si vous êtes suffisamment ouvert, ben, vous allez aussi leur parler. Et il y a une facilité d'entrer en relation qui est magique. Parce qu'en fait, vous êtes un pèlerin, c'est-à-dire vous n'êtes qu'un être humain. Vous êtes déshabillé du déguisement social. Mmh. On vient pas t'adresser la parole sur le chemin parce que tu es madame un tel ou que tu fais ci et que tu fais ça et que tu as ci ou que tu as ça. Mmh. Tu es simplement. Tu es quelqu'un avec l'énergie que tu dégages, avec le regard que tu poses, avec les mots que tu emploies. Et cette générosité, en fait, cette fraternité, elle est absolument extraordinaire parce qu'elle te donne confiance en toi. Non, en fait, elle te donne davantage d'estime de toi. Tu t'accordes davantage de valeur parce que tu sais que c'est dans ton état le plus sobre, finalement, que tu rentres en contact et il se trouve que t'es apprécié.
Et que tu peux avoir de l'intérêt.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il se trouve que les gens trouvent que t'as de l'intérêt et te remercient et sont honorés de t'avoir rencontré même 30 secondes. Et ça, c'est juste waouh.
La rencontre avec les gens, c'est ton plus grand apprentissage sur le chemin?
Mes apprentissages, c'est une maïeutique. Les rencontres, ça en fait partie. Je pense qu'il y a aussi, la providence. C'est un terme que j'employais pas avant parce que je le trouvais connoté religieusement et je ne suis d'aucune obédience, mais j'ai fait l'apprentissage que quand on est parfaitement aligné et qu'on est bien avec soi, qu'on commence à lâcher prise avec un certain nombre de choses, eh ben, on manque jamais de rien. Je suis partie avec un budget de 10 euros par jour. C'est juste impossible de vivre avec 10 euros par jour. Mmh. Je savais jamais où j'allais dormir le soir. Je savais pas comment j'allais mettre de l'eau dans mon camelback. Je savais à peu près où j'allais. Mais en plus, je me paumais en permanence. Je savais pas qui j'allais rencontrer. Je savais pas où j'allais planter la tente. Je savais rien, en fait. Je partais juste avec la confiance que tout était parfait. Mmh. Et que quoi qu'il se passe, c'était ce qu'il fallait qu'il se passe. Et donc, j'ai accueilli au fur et à mesure les rencontres, les événements. Et je n'ai jamais manqué ni d'eau, ni de nourriture, ni de câlins, ni de sourires. J'ai quasiment jamais eu froid. Enfin, voilà.
C'est ce que tu appelles la providence. Avoir ce dont on a besoin, c'est ça. Recevoir ce dont on a besoin au moment où on en a besoin.
C'est avoir la confiance que tout est là à partir du moment où on en formule la demande assez clairement. Mm-hmm. Donc il y avait des matins où je disais, ben voilà, ce soir j'aimerais bien avoir une douche et dormir dans un vrai lit parce que là je commence à en avoir un petit peu marre. Je formulais la demande clairement à l'univers et puis... À chaque fois, j'ai eu ce que je voulais.
Alors, ça veut dire qu'il faut, il faut écouter les signes.
Oui, c'est ça. En fait, il y a des signes partout.
Oui.
Il faut être suffisamment en conscience pour arriver à les voir. Et puis, les voir, c'est qu'une première étape, parce qu'après, il faut savoir les interpréter. Derrière chaque signe, il y a un signifiant. Et l'interprétation, elle est complexe, elle est subjective. Mmh. Et c'est aussi tout l'intérêt de rencontrer des gens sur le chemin, c'est que du coup, tu peux livrer ce que t'as vécu ou ce que tu as vu ou ce que t'as entendu, et puis confronter avec ces personnes-là leur propre interprétation du signe. Mmh. Et c'est extrêmement riche. Et c'est des conversations vraies.
Oui. Et puis même si on a mal interprété un signe, ça ne porte pas à conséquence. Hein. C'est pas grave. On fera mieux la prochaine fois.
Oui, complètement. De toute façon, il y a pas de notion de performance. Il y a que de la connaissance.
Exactement. Tout à l'heure, tu nous donnais donc ta définition de pèleriner. Tu nous as parlé de l'expérience intérieure avec ces mouvements répétitifs de la marche. Ça aide à voyager à l'intérieur de soi. Tu m'as dit en préparant l'émission, j'étais un bébé avant de partir. Donc ça veut dire que tu as grandi en chemin.
J'ai grandi en chemin. En préparant cette émission, je me suis replongée dans mes récits. Parce qu'en fait, chaque soir, je prenais mon téléphone et je racontais ce que j'avais vécu. Et je publiais ces textes sur une page Facebook que j'ai créée, que j'ai baptisée Emmanuel, Emmanu, apostrophe, L, A-I-L-E-S, ayant la sensation que j'avais des ailes qui se déployaient. Et en écrivant en fait ces textes, ça m'obligeait finalement à me poser et à mettre noir sur blanc ce que je comprenais, ce que j'avais vécu.
Oui.
Voilà.
Donc peut-être poser des bonnes résolutions sur le papier.
Oui, poser des bonnes résolutions, prendre de la hauteur sur les choses et aligner justement les signes dont on parlait à l'instant.
D'accord. Qu'est-ce que tu as décidé de changer dans ton quotidien au fur et à mesure que tu marchais?
Faudrait 3 heures d'émission pour que je raconte toutes les prises de conscience et toutes les décisions. Il y en a eu un certain nombre fortes qui ont été, notamment celle du, la première, ça serait celle de la décélération.
Oui.
Adopter un rythme qui soit beaucoup plus respectueux de mon corps, un rythme qui laisse davantage de place à la vie personnelle. Par rapport à la vie professionnelle. Ouais, le rythme. Après, il y a le confort où j'ai expérimenté que de dormir dans la nature, en fait, il y a absolument rien de plus ressourçant et que on dort bien mieux que dans un lit, dans une chambre feutrée.
D'accord.
Et cette expérience de l'inconfort, en fait, a été totalement surprenante parce que au final, je me dis que demain, je vivrais bien mieux dans un tipi au fin fond d'une forêt que dans ma grande baraque de 300 mètres carrés en briques. Voilà. Un autre apprentissage fort, ça a été la prise de conscience qu'il fallait que je me mette au cœur de ma vie, en fait. Que je ne dédie pas chacune de mes ondes énergétiques à l'autre et que je pense à moi, à m'écouter, à écouter mes besoins, à me respecter. Parce que si je me respecte pas moi, ça rejaillit forcément en fait sur mon écosystème.
Ouais, si tu fais pas briller ton propre soleil, tu peux pas rayonner pour les autres.
Ouais, c'est ça. Après, c'est ce qui est assez paradoxal, c'est que avant, je pense que je rayonnais aussi d'une certaine manière, mais peut-être que le sens et l'énergie que je mettais dedans n'étaient pas les bons.
D'accord. Alors, est-ce que tu as pu mettre en œuvre ces résolutions? Tu nous en as donné 3. À ton retour de pèlerinage, on va y revenir sur le pèlerinage un petit peu plus tard, mais déjà, est-ce que ces trois choses que tu as pu noter sur ton journal de bord, tu as pu les mettre en œuvre pour de vrai concrètement dans ta vie quand tu es revenu en septembre 2015 pour une nouvelle année?
Ça a tenu 15 jours. Catastrophique. Je suis rentrée avec ces idées fermes de changement de vie, pas forcément de radicalisation non plus, même si je suis assez extrémiste, mais j'apprends avec les années en devenant plus sage à modérer mes élans, mais avoir une consommation plus légère de plein de choses, ne plus aller pousser un caddie dans un supermarché. Ben non, ça j'ai tenu 15 jours. Arriver à décélérer, ben oui, non, j'ai tenu 15 jours.
On remet vite le masque sur le soleil qu'on était devenu, hein.
Complètement, et je pourrais dire que la vie m'a présenté des épreuves qui m'ont obligée à replonger dans ce que j'appelais la vie d'avant.
Ouais.
Mais en fait, je pense que je suis totalement co-responsable de ça, et j'ai décidé de replonger. Donc ça veut dire que les compréhensions et les expériences du premier pèlerinage avaient absolument pas suffi. Je m'étais pas pris le mur de manière assez forte. A priori, il a fallu que je recommence.
Allez, pour illustrer ce passage, tu as choisi d'écouter Tracy Chapman, Give Me One Reason. I'm
gotta make me change my mind.
One Reason, Tracy Chapman, mise à l'honneur par Emmanuel Tandonné dans Ondes Positives cette semaine. Alors Emmanuel, elle évoque quelque chose de particulier, cette musique, à nouveau ?
Mais le titre, c'est Give Me One Reason, donc donne-moi une raison. Et en fait, des raisons de repartir en pèlerinage, j'en avais what mille.
Ouais.
Donc je cherchais une raison pour repartir et en fait, il y en avait beaucoup, donc j'ai décidé de repartir.
T'as décidé de repartir en pèlerinage 6 mois après, en fait, hein, parce que là, on est à l'hiver 2015, passage 2016. Tu as dans la tête ton pèlerinage de l'été, tout le mois d'août 2015. Quel moment fort tu gardes de ton premier pèlerinage? Quand t'es là dans ta phase entre deux eaux à te dire, punaise, j'avais l'impression d'avoir appris tant de choses et finalement, concrètement, bah, j'arrive pas à les mettre en place dans ma vie. Tu gardes quoi dans le cœur?
En fait, je me dis que si les changements n'ont pas pu opérer, c'est que je suis habitée par des programmes qui créent chez moi des comportements déviants. Mm-hmm. Et que malgré ce premier mois de pèlerinage, j'avais pas des attentes suffisamment fortes pour me dire que ça allait résoudre tous les problèmes de ma vie. Mais je pensais avoir quand même bien avancé. Et en l'occurrence, je me rends compte que, bien, oui, d'accord, mais pas suffisamment. Et je réalise que, en fait... tous mes comportements, et j'ai presque envie de faire une généralité, tous nos comportements sont liés à nos peurs. On connaît tous la pyramide des besoins de Maslow, et je pense qu'en face de chaque besoin, en fait, il y a une peur. Mm-hmm. Et je pense que j'ai beaucoup de peurs qui m'habitent encore. Et je me replonge du coup dans un souvenir qui a été assez symbolique pour moi en matière de peur. Je me souviens d'une nuit où j'étais dans le Lot, il faisait beau, et je décide d'élire domicile au pied d'un moulin. Donc je suis au bord d'une rivière de cailloux qui est un peu en contrebas d'une route et qui fait face à une falaise gigantesque. Et je m'installe là en tout début de soirée, il y a encore des touristes qui se baignent dans la rivière. Moi je me mets un petit peu de côté et puis de toute façon avec mon gros sac à dos, il y a pas grand monde qui a envie de parler à celle qui ressemble plus à une SDF qu'à autre chose. Mm-hmm. Pour autant je sympathise un peu avec des gens, mais j'essaie de leur faire comprendre qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur de moi. Et puis au fur et à mesure, la plage se vide et la nuit commence à tomber. Et donc j'ouvre mon sac à dos et je me dis qu'il fait suffisamment beau pour que je puisse dormir à la Belle Étoile. Et j'avais jamais dormi à la Belle Étoile. Ce que j'appelle la Belle Étoile, c'est gonfler un matelas, prendre son duvet et puis s'allonger dans son duvet. Et vous avez absolument aucune protection contre quoi que ce soit.
Mmh. Il n'y a pas la toile de tente.
Et la toile de tente, qui est une protection totalement symbolique, ridicule, mm-hmm. mais qui psychologiquement met dans le confort.
Ouais.
Donc là, j'ai pas ça et je suis allongée toute seule dans mon duvet. Et j'ai cette grande falaise face à moi, le soleil qui se couche, le bruit de l'eau et des moulins. Et puis là, je cherche à m'endormir. Et je trouve pas le sommeil. J'entends des voitures qui passent, je vois les phares qui se rapprochent, et puis en fait ils passent simplement, les gens s'arrêtent pas. Mmh. Et puis j'imagine qu'il y a quelqu'un qui va venir, et que je vais me faire agresser. Enfin, toutes les peurs dont on est tous complètement traumatisés et qui font qu'on ferme la clé, à clé notre porte de notre maison par exemple. J'arrive pas à m'endormir et puis j'appelle Thomas dont je vous parlais tout à l'heure et puis je lui dis écoute, j'arrive pas à m'endormir, je sais pas ce qui m'arrive. Il me dit bah c'est simple, t'as peur. Je dis ok, mais j'ai peur de quoi? On en discute et je me rends compte qu'en fait j'ai bien plus peur des hommes que des animaux, par exemple.
Oui.
Donc on tergiverse autour de ça et puis j'arrive à calmer mon mental, je respire, je fais une petite méditation, je me recentre, je sens la nature et je m'endors. Mais je m'endors avec dans ma main ma lampe torche, avec le majeur bien connecté sur le bouton pour appuyer très très vite au cas où il se passerait quelque chose. Mmh. Et en plein milieu de la nuit, j'entends un bruit, je bondis, j'éclaire de manière extrêmement violente avec ma petite lampe torche. Et là, je vois une famille de canards qui s'arrêtent, qui me regardent avec des yeux désespérés. En imaginant que je vais faire d'eux sans doute mon prochain plat. Donc je leur explique que je suis végétarienne et qu'ils peuvent passer. Mmh. Et par contre, j'ai eu super peur d'une famille de canards. Mmh. Et là, j'ai ri. Mais je me suis foutue de moi, c'était extraordinaire. Voilà le danger qu'on court quand on dort à la belle étoile. Mmh.
Donc tu as partagé ça sur ta page Facebook, j'imagine.
Oh, entre autres, chaque jour il m'est arrivé des choses rigolotes et pleines de sens. Donc voilà, donc je me suis dit la peur d'être agressée, la peur de ci, la peur de ça, tout ça ça vaut rien. Il faut que j'abandonne mes peurs et j'ai encore du travail à faire, donc il faut que je reparte.
Donc cette nuit avec les canards, c'est un moment fort du premier pèlerinage. Est-ce que tu veux nous en partager un autre moment fort?
Ouais, il y en a eu il y en a eu plein. Il y en a un que je retiens particulièrement, qui était en Tarn-et-Garonne, donc pas loin d'ici. J'arrive au bord d'une exploitation agricole, et il y a une table avec des melons, et une pancarte avec marqué « Servez-vous, amis pèlerins ». Donc toujours cette fraternité des résidents du chemin. Et puis au moment où j'allais choisir une part de melon, je vois l'agriculteur qui arrive avec un cajot plein de melons. Et puis comme ça se produit souvent, la rencontre, la symbiose, la communication vraie, authentique, qui démarre immédiatement. Et il me propose de monter en voiture avec lui et de m'amener déjeuner chez lui. Il habite un petit peu plus haut. Et donc c'est un étranger, un homme d'une cinquantaine d'années. Et en 3 minutes et demie, je monte dans sa bagnole. Donc je pense que si ma mère avait été là, elle serait morte sur place. Mais j'ai pas peur, alors je monte avec lui. Et puis j'ai passé un moment, toute l'après-midi délicieux, au soleil, à refaire le monde. Et ce monsieur est chef d'entreprise, il a une exploitation agricole gigantesque. Il s'applique à cultiver ses melons dans un vrai respect de la terre et de la planète et de ses collaborateurs. Et j'apprends en l'écoutant la capacité à être à la fois respectueux des hommes, de la planète et en même temps être un vrai businessman. Et arrive la fin de journée et à l'apéritif en fait qu'on partage tous les deux. Se met à arriver un premier ouvrier qui vient lui faire un rapport de la journée, alors que d'habitude il en faisait pas, et puis un deuxième, puis un troisième. Et à minuit, il y a près de 30 personnes qui sont passées chez lui. Et c'est un monsieur qui n'avait jamais accueilli quiconque chez lui le soir. Donc il me demande ce que j'amène comme énergie chez lui, qui provoque que les gens viennent à lui. Et on s'en délecte et on s'en félicite. Il m'offre le gîte, la chambre de sa fille, et le matin je me réveille. Il est plus là, il est parti travailler au champ, il m'a préparé le petit-déj. Et je me rends compte qu'il me fait à tel point confiance que je suis chez lui toute seule. Je prends le petit-déj et puis je remets mon sac à dos et je descends et je vais évidemment lui dire au revoir. Je vois son tracteur dans le champ avec tous les ouvriers autour de lui qui sont en train de travailler. Et donc je pose mon sac à dos, je remonte le champ, je marche le long des sillons et je les vois en nage, en short, en train de se pencher, d'aller attraper ses melons, de les couper. Ils sont extrêmement lourds et de les porter ensuite à bout de bras pour les mettre dans des grands réceptacles. Et je leur dis au revoir. Et puis je marque une pause, je les regarde. Et je leur dis, les gars, ils se retournent, ils me regardent. Je leur dis, vous savez quoi? Vous faites un métier qui a du sens. Et ils ont l'air interpellés, ils comprennent pas ce que je veux dire. Je leur dis, vous savez quoi? À chaque fois que quelqu'un croque dans une part de melon et prend du plaisir à manger ce fruit sucré, c'est parce que vous avez fait l'effort de le ramasser. Et en fait, vous êtes des fabricants de bonheur gustatif. Et en fait, ils ont rien répondu. Ils m'ont regardé avec étonnement et ils m'ont fait un grand sourire. J'ai pas eu envie de rajouter quoi que ce soit. J'ai fait demi-tour. Et j'avais à peine marché 10 mètres que la pluie s'est mise à tomber alors qu'il y avait un grand soleil. Alors certains disent que ça s'appelle des signes du ciel. Et puis, je me suis arrêtée pour bien sentir cette pluie. Et je me suis remise à marcher. Et là, j'entends « Hey !» Je me suis retournée et tous les ouvriers s'étaient mis en alignement, en fait. Et en chœur, ils ont tous dit « Tu pars ? La pluie, elle arrive. Alors reste. » C'est avec des gens que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, avec qui j'avais passé juste une petite soirée. Évidemment, on avait parlé de choses très vraies et très authentiques. Ben, ils me disaient que je pouvais avoir de la valeur, en fait, et qu'ils auraient envie que je reste avec eux. Je me suis pas retournée. J'ai ouvert les bras vers le ciel. Et puis, j'ai continué de marcher. Puis, je suis allée pleurer un petit peu plus loin.
Alors, ça veut dire que tu n'étais pas encore prête à recevoir leur amour ?
Non, puis je pense que je le suis toujours pas. C'est un long chemin.
Alors, c'est la raison pour laquelle tu as décidé de pèleriner à nouveau ?
Oui.
Alors, donc, forte de tous ces apprentissages, tous ces témoignages, tout ce rayonnement que tu avais senti en toi, et puis le rayonnement des autres aussi, ce que tu avais rencontré sur la route, tu te dis, ben voilà, il faut que je reparte. 6 mois après, te voilà partie sur les routes, mais cette fois-ci, on est en hiver, Noël arrive.
C'est ça.
Quelle idée de vouloir partir pèleriner au cœur de l'hiver ?
Quelle idée, Dorothée, ça je te le demande bien. Quelle magnifique idée. J'avais pas mes enfants pendant les 15 jours de Noël, donc j'étais seule. J'ai une famille qui se réduit à pas grand monde. Donc je me suis dit que c'était l'opportunité de repartir à la poursuite de la découverte de moi-même. Et en me disant que les énergies hivernales seraient sans doute très différentes des énergies estivales.
Oui.
Et avec la conscience de la chance énorme que j'avais de pouvoir m'accorder 15 jours à nouveau, m'accorder des vacances. Et encore une fois seule, donc le bonheur d'être seule, de rendre des comptes à personne, d'être libre, de faire ce que je veux.
Encore plus seule que lors du premier pèlerinage, parce qu'en hiver, il n'y a personne sur le chemin, alors, enfin, j'imagine.
Voilà, alors à la fois beaucoup plus seule parce que, effectivement, j'ai croisé 2 pèlerins en 15 jours, donc ça fait pas lourd. J'ai pas eu le besoin de marcher à l'envers cette fois-ci puisqu'il y avait personne.
Oui.
Qu'ensuite, ben les gens ne vivent pas dehors l'hiver, hein, comme c'est étrange. Même les agriculteurs, en fait, il y a pas grand-chose qui pousse l'hiver. Donc, il m'est arrivé pendant 2 jours de ne parler à personne. Donc, ça fait vraiment bizarre. Ça fait vraiment du bien. C'est pour ça que je dis que dans le silence et la solitude, il y a tout, puisque là, il faut apprendre à être bien avec soi-même dans ce type de contexte. Et en même temps, j'étais moins seule que mon premier pèlerinage parce que je suis partie avec ma petite chienne. J'ai pris un animal à 4 pattes bourré d'innocence et de joie, une petite chienne qui est partie avec moi et qui a pu aussi me réchauffer la nuit parce qu'on dormait toutes les deux dans mon duvet dans ma tente et c'était une super présence.
Et puis, moins seule aussi, parce que je pense aux internautes de la page Facebook, on en a parlé un petit peu, de plus en plus de monde te suivait sur ce deuxième pèlerinage, réagissait au post que tu pouvais écrire sur ta page.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la journée, cette fois-ci, j'avais pris un petit carnet et je notais au fur et à mesure ce que je vivais, ce que je comprenais, pour que ça libère mon esprit, en fait. Et le soir, je prenais le temps d'ouvrir mon téléphone et de prendre le bloc-notes sur mon téléphone et je saisissais en live, en écoutant la fulgurance de ce qui me traversait et de ce que j'avais envie de retranscrire. Et je l'écrivais sur cette page Facebook et je gardais mon téléphone allumé un petit peu après avoir posté le message pour pouvoir mettre j'aime aux commentaires qui arrivaient. Par contre, j'entrais jamais en contact avec les gens, j'étais pas en interaction, je voulais pas rentrer dans des conversations, c'était absolument pas l'objet. Et d'ailleurs, il y a eu un moment magnifique par rapport à cette page, qui fait partie des moments forts. Il y a un soir, en fait, où je dis à ces lecteurs qu'en fait, depuis le début, je leur dis pas tout. Il y a des choses que je m'empêche de dire parce que j'ai peur que ça soit pas admissible. J'ai des clients qui lisent cette page, j'ai mes collègues, certains de mes collègues qui lisent cette page, voilà, il y a des rapports avec des personnes de mon entourage qui font que je dois défendre une certaine image. Donc je me rends compte que je dis pas tout et je dis aux internautes que je dis pas tout. Et au moment où je dis ça, eh ben je décide d'arrêter de ne pas tout dire.
C'est encore une prise de conscience.
Ouais. Et je me dis, mais après tout, si sur cette page qui maintenant compte 800 abonnés, mais chaque billet est lu en moyenne par 1500 ou 2000 personnes, si si finalement cette page du jour au lendemain il n'y a plus que 10 personnes, c'est que ça sera les 10 seules vraies bonnes personnes. Et puis c'est tout. Mmh. Et donc je décide d'abandonner complètement. Et le soir où je dis ça, où je livre ça, ce message simple qui est celui de l'authenticité totale et le message qui dit bah, vous m'aimez pour qui je suis ou sinon tant pis. Et ben bah, le lendemain matin, j'allume mon téléphone et là je me rends compte que la page elle a fait x2 sur le nombre d'abonnés. Je n'ai rien fait pour ça, sauf envoyer à l'univers le message de l'authenticité.
Alors ça veut dire que les gens sont en quête d'authenticité, de sens et qu'ils ont envie de, comme toi, de se détacher du superflu et vivre l'essentiel alors ?
Je pense qu'il y a une grande vague verte là, une grande coulée verte qui est en train d'émerger et qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'interrogent sur le sens de leur vie, sur leur mission, sur la place qu'ils occupent, sur le chemin de leur bonheur. Et les lecteurs de ma page me disent trouver en moi et en mes récits un vent d'espoir en fait.
Mmh. Il va y avoir du monde sur le GR65 l'été prochain.
Oh ben ça, je compte bien sur l'effet Compostelle et sur la médiatisation en général pour ça. Et si j'ai pu effectivement donner envie à quelques personnes de prendre son sac à dos et d'aller vivre cette expérience, ben j'en serais ravie.
Bon, on écoute la troisième musique parce que le temps défile, on en est déjà à 47-48 minutes. On écoute Pumping Blood, No No No. No, no, no. Alors Emmanuel Tandonnet, mon invité dans Onde Positive cette semaine, a choisi de partager avec nous cette musique. Emmanuel, est-ce que tu écoutais cette musique le soir de Noël 2015 quand tu étais seul et mouillé sous ta tente et que les lumières clignotaient dehors dans les villages et dans les familles?
Je l'écoutais effectivement le soir, la nuit elle m'accompagnait. Parce que je trouve que c'est un morceau puissant en termes de vibration et il me fait penser au froid, à la neige, à la solitude et j'entends les battements du cœur dedans et je la trouve vraiment magique cette chanson.
Mm-hmm.
Mais pour ce qui est du soir de Noël, ça s'est pas passé exactement comme ça. Les soirs précédents, oui, j'étais dans ma tente, parfois plantée en plein milieu d'un champ avec mon toutou dans mon duvet pour se réchauffer, pour se protéger de l'humidité surtout d'ailleurs. Mais le soir de Noël, enfin on va dire plutôt le matin du 24 décembre, je suis partie avec mon sac à dos en me disant que ma journée allait sans doute pas franchement ressembler à celle des autres,
mm-hmm.
puisque j'allais pas courir à Leclerc pousser mon caddie, j'allais pas m'inquiéter de comment ma nappe allait être décorée, ni de la cuisson de ma dinde, ni de savoir à quelle heure mes invités allaient arriver, ou de la jolie tenue que j'allais pouvoir porter. Mon programme, c'était juste marcher et puis aller par là, là où il y a les balises, et puis avancer. Et je savais pas, le soir de Noël, où est-ce que j'allais atterrir. Mais j'avais juste la confiance que ça se passerait super bien et que ça serait comme ça serait. Et donc, le 24 décembre, vers 19h, alors que j'ai croisé toute la journée des pavillons illuminés, des villages en fête, des voitures blindées de cadeaux, des enfants qui courent partout, qui ont l'air heureux, etc. Moi, avec mon sac à dos et ma solitude, on arrive dans un petit village où il n'y a personne. Et puis, sur le bord du trottoir, un peu plus loin, je croise un homme que j'interpelle et je lui dis « Excusez-moi, je cherche un endroit pour dormir et je voudrais être un tout petit peu à l'abri. Est-ce qu'il est possible de dormir dans l'église du village ?» Et il me dit « Écoutez, vous tombez bien, je suis le fils du tenancier des lieux, donc je vais voir mon père et je reviens, bougez pas. » Et son père accepte, il m'ouvre donc le porche de l'église et donc je m'installe là. Donc j'ouvre mes affaires, je prépare mon réchaud, j'installe mon matelas. Puis je m'étais prévu des petites bougies pour créer une sorte d'ambiance festive pour moi-même. Mm-hmm. Au moment où j'allume mes petites bougies, le monsieur revient me voir et me dit « Écoutez, il y a un gîte à l'entrée du village. » Je lui dis « Oui, je sais très bien, je suis passée pour faire une bise au monsieur, mais il n'était pas là. » On m'en avait beaucoup parlé, c'est quelqu'un de très atypique. Et il me dit, il vient de rentrer, je l'ai appelé, et je lui ai parlé de vous. Et il m'a dit qu'il ne voulait pas que la petite pèlerine en quête de bonheur dorme toute seule ce soir. Donc du coup, j'ai refait mon paquetage. J'étais un peu dégoûtée de refaire mon paquetage. Mais quand même contente d'aller voir ce Vincent. Et j'ai passé une soirée de Noël juste délicieuse. Avec un homme qui a un parcours de vie qui ressemble beaucoup au mien. Et on a partagé mes cacahuètes, les 2-3 trucs que j'avais dans mon sac à dos, lui ce qui lui restait en fruits et en légumes, et puis c'était très très bien comme ça.
Super cadeau de Noël.
Exactement.
Alors, il me reste une minute, Emmanuel, pour te poser ma dernière question. De ces 2 pèlerinages, finalement, qu'est-ce que tu ramènes dans ton sac à dos? Quelle femme es-tu devenue?
Je pense qu'il n'y a pas de paradoxe entre la femme d'avant et la femme d'après, parce qu'en fait c'est pas une femme d'avant, c'est pas une femme d'après. Mm-hmm. C'est 2 personnes qui coexistent en complémentarité, qui ne s'excluent pas l'une et l'autre, et donc j'ai à trouver un modèle de vie qui permette d'être à la fois quelqu'un qui amène des choses dans le monde de l'entreprise et qui crée de la richesse par ce biais là et en même temps quelqu'un qui prend soin d'elle et qui offre tout autre chose que des apports économiques, être beaucoup plus dans le volet social et sociétal. Mm-hmm. Et dans la vie personnelle aussi, je trouve évoluer dans ma façon de communiquer avec mes enfants, de les éveiller, de les éduquer, de leur faire prendre conscience de leur place, de leur permettre d'être plus à l'écoute de leurs ressentis, de leurs émotions, de se respecter plus, d'oser, de prendre des risques, de sortir du moule, sortir du cadre, de faire des erreurs, de grandir de ses erreurs, de jamais se juger et d'être en permanence fière de ses avancées. Mm-hmm. Il y a ma vision du couple qui a aussi beaucoup évolué. Mais là, c'est pareil, s'il fallait en parler, je pense qu'il en faudra encore 3 heures.
On refera une émission.
Notamment sur la notion de liberté dans la relation, qui est une notion très complexe, où on apprend à grandir par moi, être heureuse par moi, ce qui n'exclut absolument pas, bien au contraire. Et puis là, dans mon métier ensuite au quotidien, où la place de l'émotion est encore plus grande qu'avant et où la qualité de la relation humaine, elle est juste non négociable. Mmh.
Replacer l'humain au centre.
Exactement.
Emmanuel, merci pour ton témoignage. Je te souhaite encore de nombreux pèlerinages et puis un beau chemin vers toi, vers ton essence, ton essentiel.
Merci Dorothée.
Est-ce que tu peux nous donner simplement les coordonnées de ta page Facebook pour les auditeurs qui auraient envie de connaître tous les détails de tes voyages, tes réflexions, tes rencontres?
Dans le moteur de recherche, vous saisissez tout simplement Emmanuel, EMANU_AILES.
D'accord.
Et mes billets sont numérotés, donc il faut remonter dans le flux d'activité. Donc c'est relativement fastidieux. Mais après, il y a un album photo, si vous voulez aller regarder les textes qui s'y réfèrent.
Super, et on mettra ça dans le podcast de l'émission, bien évidemment. Merci beaucoup.
Merci.
Chers auditeurs, je parie qu'Emmanuel vous a donné envie de pèleriner. Trouver son essence en marchant. Et oui, au final, quel est notre carburant dans la vie? Je vous laisse méditer là-dessus. Cette émission est rediffusée dimanche à 20h et vous la retrouvez en podcast sur cfmradio.fr. Je vous rappelle aussi que vous pouvez venir donner votre message positif au micro d'Ondes Positives. Il suffit de me joindre par mail dag@saccomplir.com. Je vous souhaite une belle semaine dans votre silence intérieur et à mardi prochain.
CFM à Montauban. 101.2. 101.2.